Richard Martineau, Martineau et Élise Cloutier.
Radio X.
Bon mercredi, ma gang de vous autres. Alors, tout le monde vous dit bonjour en studio. Gabriel Auclair à la technique, Martine Albert au booking à la recherche et Elisa Cloutier au micro. Salut, Elisa.
Salut, Richard.
Et les gens qui nous écoutent en mangeant, faites attention. Pas de viande, pas de charcuterie, pas de lait, pas de blé, il y a du gluten, pas de poisson, il y a du mercure, pas de dessert, il y a du sucre. Prenez pas de chance, mangez des graines. La santé passe par les graines, des graines de chia, des graines de chanvre, des graines de lin. Vous achetez là-dessus un peu de kale, un peu de quinoa. Un festin, vos enfants vont en redemander encore.
Attends,
et encore.
Attends, t'as pas parlé du tofu. Je sais que toi, t'adores le tofu, t'en parles
le
souvent.
Le lait fermenté, la luzerne, le pain d'épeautre, des graines germées. Et comme je disais tantôt à Robbie, c'est quand même une drôle d'époque. On veut interdire le pepperoni, mais on veut légaliser le pot. Bientôt, on va sortir, il va avoir des pushers de saucisses hot dog. Ça te tente-tu? 3 saucisses, 5 piastres. J'ai des high grades, des maple leaves, des Lesters, des Lafleur, des Schneiders. J'ai un peu de tout. Alors, on va en parler un peu plus tard.
Oui, avec un pro du barbecue.
Un pro du barbecue, c'est pas moi. Max Lavoie, on va parler aussi des banques qui ne veulent pas se pointer à la commission sur les paradis fiscaux. Faut-il falloir les amener de force? Plein de choses, la chronique économique avec Pierre Couture. On va parler des enseignants qui veulent une augmentation de 14,5% sur 3 ans. À la maison, qui a eu des augmentations de 14,5% sur 3 ans? Je pose seulement la question. Ces gens-là sont-ils déconnectés? On va en parler avec Pierre Couture.
Et rapidement aussi, il y a une nouvelle qui vient de sortir, ça fait quelques minutes à peine. On a appris que le sénateur Patrick Brazeau a reçu une absolution inconditionnelle après avoir plaidé coupable à 2 accusations de voies de fait simples et possession de cocaïne.
C'est pas rien pourtant, voies de fait, possession de coke, il a plaidé coupable là, pouf, absolution inconditionnelle. C'est-tu parce qu'il est sénateur? C'est-tu parce qu'il était autochtone puis c'est touché, c'est délicat? Je sais pas, je pense pas sûr qu'un autre citoyen ordinaire voit de fait simple et possession de coke. Tu plaides coupable, tu as une absolution. Pas sûr. On s'en va tout de suite dans notre premier sujet. C'est avec énormément de plaisir que nous recevons Jean-François Lisée. On va parler du référendum d'octobre 95. Moi, j'écouterais du René Simard et du Nathalie Simard tous les jours.
J'adore cette chanson. J'ai même un macaron de René Simard sur mon manteau.
Oh boy, OK. Vintage. Oui. Alors, Jean-François Lisée, qui publie une vraie machine, il publie beaucoup. Alors, un autre livre à Québec-Amérique, octobre 95, tous les espoirs, tous les chagrins, bien sûr, sur ce référendum. Jean-François Lisée, bonjour.
Richard, bonjour. Bonjour, Elisa. Merci de m'accueillir aujourd'hui.
Ben, de rien. C'est un privilège. Faut-il tourner la page? Jean-François, en disant, c'était il y a 20 ans, le Québec a changé depuis 20 ans. Arrêtons de regarder en arrière, regardons en avant.
Faut tourner 180 pages. C'est la longueur du livre. Écoutez, vous savez pourquoi, Richard, il faut absolument savoir d'où on vient.
Pour savoir où on va.
Non, parce qu'on veut surtout pas y retourner. Alors, la mémoire collective, elle se travaille constamment. Le référendum, c'est un événement qui a eu lieu il y a 20 ans. C'est le dernier traumatisme politique majeur de notre histoire. Ceux qui l'ont vécu, comme toi et moi, Richard, on s'en souvient parce que c'était un moment extrêmement intense. Et Lisa, quel âge aviez-vous en 95?
J'avais 10 ans.
Vous aviez 10 ans. Bon, ben vous avez peut-être le sentiment que il s'est passé quelque chose quand j'avais 10 ans.
Je me rappelle, j'ai un vague souvenir de la soirée.
Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ouais. Pourquoi c'était si intense? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, il y a quand même deux publics. Et j'ai essayé d'écrire le livre pour que des gens comme toi, Richard, disent « Ouais, ça, j'avais oublié ça, puis ça, je savais pas ça. » Parce que j'étais très attentif.
Vous étiez à l'interne.
J'étais à l'interne, mais aussi, depuis 20 ans, j'étais très attentif des informations nouvelles qu'on a obtenues, surtout du camp du nom, ce qui fait que il y a des choses qu'on savait pas il y a 5 ans que j'ai dans le livre maintenant parce que on l'a su, mais aussi, et ça j'étais content, puis j'ai des premiers lecteurs, des mères qui m'ont dit je vais le faire lire à mon fils de 16-17 ans parce que c'est un bon résumé de ce qui s'est passé, il va mieux comprendre.
Et c'est bizarre parce que les souverainistes ont quasiment, j'ai l'impression ces temps-ci, ils ont quasiment la nostalgie du référendum d'octobre 95 parce qu'ils ont perdu, mais ils ont perdu de peu. Alors que s'il y avait un référendum aujourd'hui, ils perdraient avec une grosse marge. C'est comme si aujourd'hui ils soivent des coups de pied dans le ventre. Alors on est nostalgique de l'époque où c'était seulement des petites gifles dans le visage finalement. Là,
mais ça se présentait pas comme ça, Richard, au début. Et c'est clair que on se souvient qu'au début de 95, les gens gouvernement disait, ben vous allez recevoir une grosse gifle. Et le camp du non, d'ailleurs, on se souvient, bon, le référendum de 1980, ça avait été non à 60%. Référendum de 95, le camp du non voulait qu'on aille moins, c'est-à-dire eux, ils voulaient plus que 60%. Ils voulaient que ça soit une défaite historique et ils pensaient qu'ils s'en allaient vers une victoire historique pour eux. Et à la fin, ça a été une égalité presque. À 26 000 personnes auraient changé d'avis et le oui aurait gagné. Alors, donc, il faut pas penser que ces choses-là sont statiques, ces choses-là sont dynamiques. Il y a des gens qui, en 95, nous disaient « On veut pas de référendum parce que ça a fait trop mal en 80, donc n'en faites pas. » Mais une fois que le référendum a eu lieu, ils sont tous venus. 94% de participation ce jour-là, c'était historique.
Et vous étiez pas entièrement d'accord avec la déclaration de Jacques Parizeau sur l'argent et les votes ethniques. Vous parlez d'une demi-bêtise, ouais.
Ben oui, je couvrais, moi, la soirée électorale, la soirée référendaire pour Télé-Québec, je me souviens, j'étais jeune journaliste relativement, et je couvrais le camp du oui, et j'étais à quelques pieds, à 3-4 pieds de M. Parizeau lorsqu'il a prononcé son fameux discours, et j'ai senti dans la salle, c'est comme la température avait baissé, là, on s'était dit, oh là là, et j'avais l'impression, ça va faire mal au camp de la souveraineté, au camp du oui, et pendant de nombreuses années, ils vont le payer, et je n'avais pas tout à fait tort, parce que ça a pris énormément de temps avant qu'on revienne avec le discours sur l'identité, les valeurs et tout ça, on a mis ça dans le congélateur pendant très longtemps, suite à la sortie de M. Parizeau.
C'est un fait. Ça nous a mis sur la défensive. Moi, j'étais très surpris de la déclaration parce que lorsqu'on faisait nos simulations de victoire du oui, on comptait pas sur un chiffre significatif de non-francophones. Les anglophones veulent rester dans le Canada, c'est normal. Les gens qui sont des Québécois ou des Canadiens d'adoption ont, et c'est normal, une reconnaissance envers le pays qui les a acquis, qui les a accueillis. Donc, on s'attendait pas à avoir un gros chiffre là. Et lorsque on a vu qu'on n'allait pas passer le cap du 50, ben c'est parce qu'à Québec, une majorité de gens ont voté oui, mais pas autant que dans le reste du Québec francophone. Et en Beauce, ben, la majorité était pour le non. C'est là qu'on l'a perdu. Alors, s'il avait fallu, c'est jamais une bonne chose en politique lorsque tu perds de pointer du doigt qui que ce soit, mais s'il avait fallu pointer, c'est dire, ben, on n'a pas eu suffisamment de francophones. Parce qu'on peut pas dire, ben, nous, les francophones, on s'est pas suffisamment mobilisés. Et c'est la minorité qui est responsable de notre avenir.
Il y a beaucoup de gens qui disent, j'entendais Jacques Brassard cette semaine, justement, sur les ondes de la station ici, qui disait, ben, oui, peut-être que c'était pas politically correct de le dire, mais M. Parizeau avait raison. Lorsqu'on entendait à l'époque, je me souviens fort bien, des porte-paroles de la communauté grecque ou de la communauté de telle communauté dire à leurs membres, vous allez tous voter non. Et je m'excuse, mais moi, j'appelle ça un vote ethnique. Je suis désolé, mais quand c'est des porte-paroles de la communauté qui disent tous les gens de ma communauté devraient voter d'un bord. Moi, j'ai jamais entendu parler, les francophones québécois de souche devraient tous voter de ce bord-là. C'est un vote ethnique, là.
Écoute, on peut débattre là, de qui a dit quoi, etc., mais à la fin, tout le monde, ce sont des électeurs. Et de penser que bon, les libéraux, les fédéralistes, évidemment, sont bien intégrés, sont bien chez les non-francophones, puis c'est pour l'essentiel leur électorat fidèle. Mais il y a des raisons à ça. Et pour moi, tu sais, quand on prend un pas de recul, de dire, ben écoutez, si les Québécois veulent avoir un pays où ils sont majoritaires, ben il faut qu'à 66% les francophones votent oui, puis c'est réglé. C'est réglé. C'est pas les 20% de minorités qui vont décider si le Québec est souverain ou non. On peut pas leur faire reporter eux la tâche. Moi, j'ai des amis juifs séfarades qui ont voté oui, qui étaient pas contents que le Congrès juif fasse un appel au vote non. Puis on sait même que dans ces communautés-là, les Grecs, les Italiens et les Juifs, est-ce qu'ils feraient la même chose maintenant? C'est pas certain. Mais il n'en reste pas moins que, comme dit Jacques Brassard, la moitié de la déclaration est tout à fait vraie. L'argent, c'est sûr. Alors là, les fédéraux ont dépensé, il y avait des plafonds de dépenses de 5 millions pour le oui et le non. Les fédéraux ont dépensé au moins 15 millions. Ils ont vraiment foulé au pied la démocratie québécoise là-dessus. Et c'est sûr que ça a eu un impact.
Est-ce que c'est un peu pour ça que vous mentionnez qu'un gouvernement souverainiste pourrait imposer aux immigrants québécois un délai de 12 mois avant de leur accorder un droit de vote?
Ça, c'est le problème qu'on a, c'est de défendre la démocratie québécoise. Pour les plafonds de dépenses, Et pour ce qu'on appelle les usines à citoyenneté. Alors, normalement, chaque année, il y a quelques dizaines de milliers d'immigrants reçus au Québec qui deviennent citoyens. Et dès qu'ils deviennent citoyens, ils peuvent voter dans une élection québécoise la semaine suivante. Hein, il n'y a aucun délai. Et ça, ça ne pose pas de problème, sauf si le gouverneur fédéral fait une énorme opération politique d'accélération des certificats de citoyenneté.
Ce qu'ils ont fait.
Ce qu'ils ont fait. Absolument. Et donc, dans le mois précédant le vote du 30 octobre, il y a eu 400% plus de certificats délivrés que dans le mois
d'octobre. C'est un hasard, Jean-François.
Et ils ont promis de le refaire. Alors moi, je dis, la plus grande leçon de démocratie qu'on a eue depuis 20 ans, elle nous est venue de Londres. Londres, avec l'Écosse, avait la même situation qu'Ottawa avec le Québec. Puis Londres a dit, on va faire le contraire du Canada. On va respecter le processus. On va respecter les plafonds de dépenses. On fera pas d'usine de citoyenneté. On va respecter le 50% plus 1. Puis on va même trouver une façon de s'entendre sur la question. Alors moi, je dis, là, ma proposition première, là, c'est la prochaine fois, on se retourne vers Ottawa. Puis on dit, est-ce qu'on peut juste prendre l'entente Londres-Écosse puis l'appliquer ici et... On va ensuite pouvoir débattre sur le fond.
Jean-François, il y a des gens comme Martin Philpot, par exemple, qui affirment que les souverainistes, se sont fait voler le référendum. Est-ce que c'est vrai selon vous ou c'est parce que vous êtes un mauvais perdant, c'est tout?
Ben, moi, je pense que c'est louche. C'est sûr que c'est louche parce que, on sait, la Cour suprême du Canada, ensuite, a dit l'égalité des sommes dépensées dans un référendum est essentielle à la légitimité du résultat. Ben là, on n'a pas eu l'égalité. C'est clair que ça a été complètement débalancé. Alors, si on était aux Jeux olympiques, on dirait que le camp du non a été dopé puis on lui retirerait sa médaille d'or. Hein? Mais la politique, c'est pas des olympiques, mais c'est à peu près ça. Et deuxièmement, les gens se souviennent pas de ça, puis ça va vous surprendre, même des vieux qui étaient là ne s'en souviennent pas. Vous savez que pour voter au référendum de 95, on n'avait pas besoin de s'identifier. On n'avait pas besoin de montrer notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, notre facture d'hydro, non. Hein? Et ça, c'est parce que les libéraux refusaient l'amendement que nous, les péquistes, on voulait amener pour le référendum. On a dit, c'est important, on va introduire l'identification de l'électeur. Et les libéraux provinciaux ont refusé. Et par...
Vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui pouvaient aller voter deux fois?
Ben, écoutez, à l'élection partielle de 98, il y a un organisateur libéral dans Anjou qui a été reconnu coupable d'avoir acheté des votes, 10 $ chacun. Il dit, bon, là, tu votes là, ensuite tu changes de nom, tu votes là, ensuite tu changes de nom, tu votes là. Donc, il savait comment organiser ça. M. Parizeau a pêché, à mon avis, par excès de démocratie, parce que je lui disais, ben, on est majoritaire, on devrait voter cet amendement-là. Et il disait, vous savez, ça prend un consensus des deux grands partis avant de changer la loi. Elle a été changée, la loi, pour l'élection de 3 ou 4 ans depuis, puis tout le monde trouve ça normal. Mais on sait qu'il y avait beaucoup de voitures avec des plaques ontariennes à Gatineau ce jour-là.
Et il faut se rappeler aussi cet événement totalement grotesque. Et des fois, j'y repense parce que j'ai des souvenirs clairs et précis du Love Fest où des autobus débarquaient avec des Canadiens anglais qui descendaient littéralement et qui nous prenaient, qui nous donnaient des hugs, qui nous embrassaient sur les joues. Oui. On vous aime, partez pas. C'était surréaliste.
Ça partait d'une bonne intention. Mais, mais c'est sûr que donc, il y a des avions d'Air Canada, de Canadian Airways qui existaient à l'époque, des autobus affrétés par le Toronto Star. Gratuitement, aller dire... Alors là, on posait la question, mais est-ce que ces dépenses-là sont légales? Et il disait, on s'en fout, on veut sauver le Canada, on s'en fout si c'est légal. Alors moi, je blâme pas les Canadiens anglais qui sont venus dire ça. Évidemment, la question qu'on leur posait, c'est où étiez-vous quand vous avez refusé Meech? Où étiez-vous quand vous avez refusé de reconnaître notre autonomie ou notre existence comme société distincte?
Ben, une fois qu'on avait dit non, après ça, ils nous aimaient moins. Là,
exactement.
Là, c'est comme... c'est ça. Ils ont décidé, c'était fini, c'était réglé, pourquoi on s'occuperait d'eux autres?
Là. Exactement. Ça, j'explique ça dans le livre. Depuis 20 ans, tu sais, ils ont eu 20 ans pour régler le problème. Le Québec ne fait pas partie de la Constitution canadienne, c'est toujours pas réglé. Et ça sera pas réglé, puis c'est pas pour être réglé. Puis il y a une scène que je décris dans le livre qui s'est passée à Québec l'an dernier, en 2014. Philippe Pouliard, un bon Canadien, lui, il voudrait que ça marche le Canada, était avec Stephen Harper. Et il a dit, ce serait bien si, pour l'anniversaire du Canada, là, en 2017, le Québec pourrait signer la Constitution du Canada. Et là, tu sais, c'est le chef de la nation, là, qui dit ça pour notre anniversaire, là. Ce serait pas beau, ça. Et la réponse de Stephen Harper est venue par son attaché de presse, qui a dit, il n'y en est pas question.
Il fait beaucoup de décisions par son attaché de presse, lui.
Il a dit, il n'y en est pas question. Je disais, on est dans un pays où le chef de notre nation pose un geste de bonne volonté, puis il se fait dire, il n'y en est pas question. Ça, j'appelle ça de la violence politique soft, mais on est habitué à ça. Alors, c'est dommage.
Jean-François, le sous-titre du livre, c'est « Tous les espoirs, tous les chagrins ». On est plus dans les chagrins ces temps-ci. Ça va mal, la dernière claque des élections fédérales, faut le dire, là. C'était, oui, c'est 10 sièges, mais au point de vue du nombre de votes, c'est pas fort. Il y a un sondage qui affirme que moins de 50% des souverainistes croient que le pays va finalement arriver. Donc, c'est un peu, là, on est encore la falle à terre, comme on dit, là.
On est en creux de vague, c'est oui. Vrai. Mais dans ce même sondage-là, ce matin, on demande aux gens quelle est la proportion des gens qui sont d'accord avec le Canada tel qu'il est. Il y a juste 29% des Québécois qui sont contents du Canada tel qu'il est. Alors, il y a moins de gens qui sont d'accord avec le Canada tel qu'il est qu'il y en a qui veulent faire l'indépendance. Alors, c'est pas une bonne journée pour les fédéralistes non plus. Mais ce qui est certain, c'est que ces bas de vagues-là, on en a vécu plusieurs. On en a vécu même à quelques mois d'un résultat qui était presque à l'égalité. Et ce qui fait que, moi, je comprends parfaitement les Québécois de se dire, ben, on va pas rester choqués tout le temps, puis on va pas se concentrer là-dessus tout le temps, mais on sait que le mal, il est là. C'est comme de vivre sur la faille de San Andreas en Californie, puis dire, ben coudonc, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre, ça fait que je pense que c'est réglé. Non, c'est pas réglé, la faille est toujours là, il va finir par se passer quelque chose.
Mais les gens se disent, ça n'empêche pas des Québécois d'avoir des carrières internationales et d'avoir des succès, des grosses entreprises, des individus, les Denis Villeneuve, les Cirque du Soleil. Ça n'empêche pas, dans la situation actuelle, ça n'empêche pas les Québécois d'aller au bout de leur rêve.
Oui. Alors, c'est vraiment paradoxal parce que, tu sais, moi, j'ai mis ça sur Twitter puis sur Facebook cette semaine, de voir Xavier Dolan faire le clip d'Adèle dans les cantons de dans
Montérégie. Quelle bonne chanson, hein?
Une bonne chanson. Moi, ça me met de bonne humeur. Tu sais, on est avec les plus grands, on est avec les meilleurs.
Ben oui, donc pourquoi se séparer?
Ben, écoute, imagine, on fait ça alors qu'on n'a même pas d'État. Imagine si on avait un État en plus. Mais c'est vrai que tous nos succès font en sorte que de dire, bon, finalement, c'est pas grave qu'on soit dans le Canada parce qu'on a tous succès-là. Alors, imagine si, ce matin, on avait un article qui montrait que nos artistes et nos organisations d'artistes avaient dû se taire parce qu'ils avaient été intimidés par le gouvernement Harper pendant 9 ans puis ils n'avaient pas le droit de parler, sinon ils étaient coupés, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a payé. On s'est battu pour avoir un registre des armes à feu que le Canada voulait détruire. Il y a un certain nombre de choses que on est pris dans ce genre de camisole de force. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire malgré la camisole de force. Imagine si on en était libéré.
Et Monsieur Lisée, je me posais une question pendant la dernière campagne électorale provinciale, puis en lisant votre livre, je me suis encore une fois posé la même question. Vous l'avez dit, on l'a dit un peu plus tôt, le référendum de 95, j'avais 10 ans, donc je l'ai pas vraiment vécu. Vous dites que je me demande pourquoi au Parti québécois le mot souveraineté. Et on dirait qu'on l'évite en campagne. Puis dans votre livre, vous dites le slogan électoral du Parti québécois en 94 était « gouverner autrement » et non pas « un vote pour la souveraineté ». On dit le mot « souveraineté » n'apparaissait pas dans les publicités du PQ.
Oui.
Même chose à la dernière campagne, on se rappelle du point de Pierre-Carl Péladeau, ça a créé tout un tremblement de terre. On dirait que le mot « souveraineté », on l'évite au Parti québécois alors que c'est l'article 1.
Ben, c'est le choix que le Parti a fait à la dernière campagne au leadership de dire que là, on va être conséquent, on va être cohérent, mm-hmm. on va aller de l'avant. Et le résultat 2014 nous dit, ben là, l'ambiguïté, les Québécois n'en veulent pas. La porte doit être ouverte ou fermée, il faut être clair sur ce qu'on propose. Et c'est la dynamique dans laquelle on est engagé avec Pierre-Carl, avec une énergie très forte, avec beaucoup de choses en chantier pour les 3 ans à venir. Mais moi, comme je l'ai dit quand j'étais candidat au leadership, brièvement, mais c'est intéressant, je dis, ben, la première chose, si on veut faire l'indépendance, c'est que ça prend plus d'indépendantistes. Et en ce moment, il n'y en a pas suffisamment. Alors, notre première tâche, c'est d'augmenter le nombre d'indépendantistes chez les jeunes, partout dans les régions, y compris dans les communautés.
Mais Jean-François, vous aimez le peuple québécois.
Oui.
Vous aimez les Québécois.
Oui.
Bon, ben, si les Québécois, ça ne leur tente pas, vous devez accepter ça aussi.
Ben oui.
Vous leur posez la question, ils disent non.
Bon, ben c'est ça. Si vous aimez le peuple québécois, vous vivez avec ça.
Oui.
Et si vous croyez vraiment aussi au PQ, à votre option, faites une élection référendaire, jouez all-in, toutes vos jetons là, sur la case du oui. Là. Si vous votez pour le PQ, on fait le référendum, sinon on le fait pas. Là, j'ai entendu le PQ qui dit non, on va jouer la carte, là, le combat contre l'austérité, le bon gouvernement. Non,
on a aussi l'impression qu'on ne sait pas exactement.
Arrêtez, Richard Dallaire, on va les idées claires.
Non, mais si vous avez confiance en moi,
tu as bon compté pour toi là.
Non, mais j'ai l'impression que vous trouvez la pilule
à Montréal ou à Québec, c'est ça qu'on veut savoir.
La pilule souverainiste, c'est trop amer, puis là vous l'enrobez dans du sucre qui est le combat contre l'austérité, qui est une.
Mais en même temps, si tu te présentes à Québec, il faudra que tu viennes physiquement là tous les jours.
Oui, mais alors, Jean-François, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il faut qu'il dise.
Ben moi je pense
élection référendaire, puis si on va perdre, mais on va perdre debout, vaut mieux perdre debout que gagner à genoux.
Puis en parler aussi de la souveraineté, parce qu'on dirait qu'on dit juste le mot.
Ben c'est ça, parler de la souveraineté, de l'indépendance. Pierre-Carl a annoncé, il va y avoir un institut sur l'indépendance, on va être beaucoup plus présent. Vous allez voir là sur les 3 ans, il y a des choses qui se préparent là. Puis moi, je suis très 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 content de voir ce qui est en train de se préparer. Maintenant, pour ce qui est de l'élection référendaire, je sais que Madame Lapointe est revenue avec ça dans le Journal de Montréal. C'était une bonne idée. Écoutez, en ce moment là, la communauté internationale, l'ONU dit, il y a une façon de devenir indépendant, c'est par un référendum, c'est 50% plus 1. C'est mieux si les partis s'entendent avant, peut-être avec un médiateur sur comment s'y rendre. C'est comme ça que c'est vu. En Catalogne, exactement le scénario de Mme Lapointe, tous les partis indépendantistes ensemble dans une élection. Pourquoi? Parce que l'Espagne leur a interdit de tenir un référendum. Hein, c'est leur plan B. Ils voulaient faire un référendum. Alors, je pense que le Québec, les partis québécois...
Non, mais si on est 50 % des sièges, 50 % des voix...
Ah, ben si on avait ça, ben là, c'est très simple. 45 jours plus tard, on fait un référendum puis on le gagne. Ben, ah, si on a 50 % des voix puis 50 % des
sièges
à l'Assemblée nationale,
Si les gens disent oui... Ils disent oui, puis s'ils disent non, ils disent non, puis on n'en parle plus pendant 50 ans.
Ben, Mario Dumont avait dit que ça prendrait un moratoire de 10 ans en 95. Ben là, ça fait 20 ans. Ça, c'est le temps d'en parler.
Ben, le moratoire une élection référendaire, que ça soit fait, que ça soit clair. Non, mais vraiment, là, tu veux-tu coucher avec moi, oui ou non? Tu sais, pas là, pas de souper, pas de cinéma, pas de petit café, pas de fleurs, pas de ça. Ça te tente-tu de coucher avec moi, oui ou non?
Très masculine. C'est une approche très masculine. Oui. Qui marcherait peut-être pas avec l'autre 50% de l'électorat féminin.
Don't beat around the bush.
Moi, je veux pas parler de ta vie personnelle, là, mais moi, dans mon expérience, ça marche
très peu, cette tactique, Richard. Je vais juste t'en informer. Mais on pourrait en parler, tu sais. C'est ce que Richard essaie de dire avec.
C'est sûr, mais moi, je pense que c'est un genre de logique. Si nous on est très dans la convergence, Pierre-Carl, les appels qui sont faits à Solzanetti d'Option nationale, puis à Québec solidaire, puis on sait pas comment on pourrait s'organiser pour être plus unis à l'élection de 2018, mais en tout cas nous on veut avoir cette discussion là. Mais si on était dans le scénario où des candidats indépendantistes étaient élus dans la majorité des sièges du Québec avec la majorité des voix, ce serait très facile d'avoir un référendum dans 45 jours pour officialiser cette décision-là, puisqu'on serait dans la dynamique, puis à ce moment-là, la communauté internationale reconnaîtrait notre résultat référendaire. Alors, mais la question, c'est, est-ce qu'on aurait 50%? Qu'est-ce qui arrive, Richard, si on est minoritaire? On démissionne
si
tous?
Si ça passe pas.
Là, mais si on est élu minoritaire, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne tous?
Ben oui. Ah, ben oui. Bon. C'est ça. Vous êtes élu, puis ça prend.
On va te perdre comme député de Québec.
Et Jean-François Lisée, dernière question. Ouais. On sait que pendant la course au leadership au PQ, vous avez dit à l'actualité, je ne me suis jamais fait autant dire de me la fermer, de me taire. Vous avez dit ça, là. Donc, ouais. Parce que vous étiez très critique. Vous étiez un de ceux, d'ailleurs, qui critiquait de Pierre-Carl Péladeau. Puis c'est important dans un parti aussi que ces débats d'idées-là. Et vous avez dit, on me dit de me taire. Donc, ça a fonctionné, là, je pense, là, parce que Jean-François Lisée n'est pas très critique là, de la nouvelle direction du PQ. Là. Vous avez rentré dans le rang. Là.
Ben, je suis content. Alors, c'est facile de ne pas être critique. parce que je suis content. Ça va être plus difficile dans les moments où je serai moins content. Je vais quand même jouer l'équipe. Mais c'est sûr que le moment de la plus grande liberté de parole dans un parti, c'est dans la campagne au leadership où tu es candidat au leadership. Ça, c'est le moment où être complètement ouvert. Puis moi, j'ai joué la carte de l'honnêteté. Je veux dire, c'était pas tactique, c'était pas réfléchi. Mais c'était, je disais ce que je pensais. Je vais vous dire ce que je pense. Et si vous aimez ça, tant mieux.
J'aimerais vous entendre aussi sur le mandat sans droit de regard de Pierre Campellano.
Alors, j'ai fait ça pendant la campagne et ensuite, j'ai dit, bon, ben là, il a gagné avec une forte majorité. Moi, mes arguments, je les ai faits pendant la campagne. Il a fait les siens. Les péquistes ont avalisé la position de Pierre Carl. J'ai dit donc, c'est la position du parti. Alors moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je pense le contraire d'à l'époque. Mais je vais pas nuire non plus, je me rallie à la majorité. Alors c'est ma position aujourd'hui.
Mais Jean-François, je se le dis, vous avez décidé de ne pas faire la course et c'est tout en votre honneur parce qu'il y a des gens qui auraient pu faire la course et puis finalement se désister en plein milieu de la course et décider de plus la faire. Vous avez dit je ferai pas ça, je courrai pas, c'est tout.
C'est ça. C'est chacun a pris sa décision. Moi je suis tout à fait en paix avec moi-même, avec la décision que j'ai prise, avec la prédiction que j'ai faite, de dire regardez, Pierre Carl a déjà gagné, alors à quoi bon? Ça s'est réalisé et puis en ce moment on travaille en équipe. Moi j'ai des dossiers super, on parle du tabac, on parle de la santé, toute la question des services sociaux, la santé publique et je publie ce bouquin dans toutes les bonnes librairies. Excellent cadeau et c'est pas trop long. C'est pas trop long. Même Richard a eu le temps de le lire hier.
Octobre 1995, tous les espoirs, tous les chagrins, puis il y a une marguerite, puis là il y a comme un pétale qui se détache. On dirait que la marguerite pleure.
Ben ouais, il nous manquait juste un pétale pour gagner.
Ok.
Alors venez. Merci. Si vous avez trouvé le pétale manquant, venez me le porter au Salon du Livre de Québec ou dans une bonne librairie.
Merci beaucoup, Jean-François Lisée. Merci. Après la pause, on reçoit Max Lavoie, Monsieur Barbecue Québec, et on va parler justement là, du cancer qui est causé par les saucisses.
De la mauvaise viande rouge.
Du bacon.
Oui, le cancer du bacon, exactement. Vous écoutez Martino à Choix Radio X au 98.1.
Martino. Martino. Radio X.
L'extra. L'extra. 80. La fin de semaine à 16h. On sort le synthétiseur. L'extra. 80. L'extra. L'extra. 80. Samedi et dimanche. Tout de suite après Légende du Rock.
Radio X.
Une présentation de Boucher Lortie.
Boucher? Quoi, Lortie?
Si tu dois mettre des mitaines pour le four pour débrancher le fil du séchoir à cheveux, c'est pas normal, ça?
Non, c'est pas normal.
418-623-2323.
Boucher.
Lortie.
On est service.
Martineau.
Une présentation de Laval Volkswagen qui, en réponse à votre demande, a décidé d'allonger les heures d'ouverture du département des pièces et services jusqu'à 21h. L'équipe de Laval Volkswagen vous remercie de votre confiance.
Ils sont nés dans la neige et dans la glace. Ils aiment affronter les éléments. Ils ont été pensés et repenser encore. Ils sont le résultat d'une quête sans fin vers la perfection. Ils ont été conçus pour aller plus loin et partout. Ils ont été créés par les inventeurs du premier pneu d'hiver au monde.
Laissez-vous surprendre par les pneus Nokian Tires.
Les pneus Nokian sont disponibles chez Aubin Auto sur l'avenue Bergeron à Saint-Agapi. AubinAuto.com. Et jusqu'au 15 décembre, recevez jusqu'à $70 de rabais.
Nokian Tires, pour votre sécurité avant tout.
Ici André Arthur, avec un message qui s'adresse à tous ceux qui sont gourmands. Tous les dimanches soirs de novembre, au restaurant Michelangelo, on répond à la question suivante. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir en famille si notre mère était italienne? Vous allez vous présenter, les plats vont arriver, vous n'aurez jamais commandé, sauf peut-être le vin, et vous allez manger comme des Italiens, des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans les restos italiens. Michelangelo.
En octobre, chez Kia Lévis, c'est à votre tour de célébrer. La Soul est à seulement $177 par mois avec un acompte minime de $200. C'est l'équivalent de payer seulement $41 par semaine. Et ne manquez pas l'Optima 2015 en liquidation à partir de $21,445. C'est un rabais de $5,000. Et chez Kia Lévis, sur tous nos modèles, les pneus d'hiver sont gratuits.
Votre Kia, au meilleur prix, c'est Kia.
Chez Canadian Tire, la pose de pneus, on aime ça rythmé. Puis les paiements aussi. Dommage que je doive crier!
Ah! C'est pourquoi on vous offre de payer en 24 versements mensuels égaux à l'achat de $200 ou plus de pneus d'hiver.
Et si vous les faites installer par nos techniciens certifiés, vous pourriez gagner la valeur de votre achat jusqu'à $1,000.
OK, les gars, c'est l'heure de la pause de pneus.
Canadian Tire, notre garage.
jusqu'au 31 octobre dans les magasins Canadian Tire du Québec participant sur approbation du crédit avec la carte Mastercard option. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Équipe Laberge via Capital, les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec.
SimonLaberge.com.
Vous êtes proprio? Ça fait déjà des mois que vous essayez de vendre par vous-même et vous ne vendez pas? Vous êtes tanné, vous voulez vendre une fois pour toutes. Le marché immobilier est actif à Québec avec équipelaberge.com. Contactez-nous.
SimonLaberge.com.
Ils ont les connaissances et les contacts pour vendre votre propriété rapidement et à bon prix. Demandez l'avis de Simon Laberge, vous serez satisfait. Équipelaberge.com. Équipelaberge.com.
Flash.